Et oui, près d'un mois après l'assassinat de Samuel Paty devant son lycée de Conflans-Sainte-Honorine, nous prenons ce matin le temps de la réflexion. Avec mon invité, nous essayons de comprendre, sans évidemment trouver des justifications à la violence, comprendre ce que la figure de Mahomet représente pour un musulman, ce qu'une caricature a pour lui d'insupportable. Bonjour Père Jean-Jacques Rouchy.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Toulouse, délégué épiscopal, chargé des relations avec l'islam et des relations interreligieuses. Alors, notre sujet ce matin est éminemment sensible, hein, nous allons prendre toutes les précautions nécessaires. Si toutefois nous devions heurter certains auditeurs, je les prie d'avance de nous en excuser, c'est évidemment pas notre propos. Père Jean-Jacques Rouchy, par votre mission, vous êtes quotidiennement en lien avec les autorités musulmanes locales ici à Toulouse. Vous êtes en lien avec des croyants également. Est-ce que vos relations se sont trouvées modifiées par les événements récents ?
Tout à fait. Beaucoup modifiées et beaucoup en bien.
Ah, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je n'ai jamais autant reçu de messages, soit officiels, soit officieux, de soutien, de condoléances, de condamnations qu'au cours de cet attentat. Et beaucoup, beaucoup de... En particulier, tous les délégués épiscopaux des diocèses de France ont reçu des condoléances ou des messages de soutien de la même nature, ce qui ne s'était jamais produit. Donc ça, c'est au niveau officiel. Et au niveau officieux, alors, bon, tous les amis, toutes les connaissances ont non seulement donné des messages de soutien, mais trouvé dans la tradition musulmane beaucoup de, soit des passages du Coran, soit des passages de la tradition du prophète, pour condamner de tels actes. Donc ça ne s'était jamais produit à ce niveau.
Et comment vous l'expliquez ?
Alors, je l'explique par d'abord les liens interpersonnels qui se tissent.
Oui, mais que ça donc, soit que ça ait atteint un tel niveau.
Et en même temps, c'est une réaction évidemment qui doit être conçue dans le contexte social actuel.
Donc,
au-delà de la réaction spontanée et sincère, il y a effectivement la volonté de lutter contre le fameux amalgame et de s'engager vraiment. Alors, évidemment, personne ne peut représenter la totalité des musulmans.
Bien sûr.
Mais il y a cette volonté, justement, de montrer que tous les musulmans condamnent ce genre d'actes. Sauf, évidemment, quelques intégristes ou quelques djihadistes ou quelques terroristes.
C'est important ce que vous dites, hein, parce qu'on ne les a pas beaucoup entendus, ces personnes, mais on l'entend à travers vous, par des voix officielles et des liens interpersonnels, elles se manifestent.
Voilà, il y a eu beaucoup d'expressions, hein, de beaucoup d'entités, en particulier les scouts musulmans de France, tous les officiels, beaucoup d'associations, beaucoup de conseils d'administration de mosquées. Enfin, ça a été vraiment... très, très considérable.
Eh ben, c'est une bonne chose. Alors ce matin, on va essayer de mieux découvrir ces musulmans qui parfois nous font peur et découvrir surtout ce que représente Mahomet pour un musulman.
Alors Mahomet, pour un musulman, c'est celui qui a été choisi par Dieu pour faire descendre un message direct. Mahomet n'est pas l'auteur du Coran. Et paradoxalement, le fait qu'il n'en soit pas auteur et que le message vienne directement de Dieu lui confère un statut tout à fait exceptionnel. Et de plus, c'est un homme comme tous les autres, mais il est devenu au fil des siècles le beau modèle. C'est donc la perfection de la réalisation de la religion dans une personne humaine.
Est-ce qu'il a une forme de sacralité ?
C'est une hyper-sacralité. Alors Dieu seul est sacré. Et c'est précisément pour cela qu'il ne faut rien représenter, ni même le prophète. Il y a une double interdiction, si vous voulez, de représenter le prophète. La première, c'est une interdiction qui remonte au judaïsme et qui imprègne profondément les mentalités, y compris des musulmans depuis de nombreux siècles, pas d'idolâtrie. Et de plus, puisque cet homme a transmis l'image d'un Dieu qui se révèle directement, rien ne doit être l'objet d'un culte, sinon Dieu, et donc pas le prophète non plus. Et c'est aussi pour cela qu'on ne doit pas représenter le prophète, parce qu'il est un homme et qu'il ne faut pas représenter les hommes, et surtout parce qu'il ne doit pas être un écran dans l'adoration qui n'est due qu'à
Une
Dieu.
Une idole, en fait. une idole.
Il ne doit pas être une idole, mais surtout pas lui, si vous voulez, puisqu'il transmet un message anti-idolatrique absolu. Donc il ne faut surtout pas l'idolâtrer à lui, et c'est pour ça qu'on va interdire sa représentation. Et c'est un interdit qui est profondément ancré dans la conscience de tous et dans la culture. Donc paradoxalement, on pourrait avoir des musulmans athées, parce qu'il y en a, mais qui respectent culturellement, je dirais viscéralement, au-delà même de leur propre foi, cet interdit qui est un interdit majeur.
Un interdit inscrit dans le Coran ?
Ce n'est pas inscrit dans le Coran. C'est infra-coranique, c'est diffus. Dans le Coran, ça fait partie de l'interdiction générale des idoles. Et alors, ce phénomène a été accru par le wahhabisme, qui en particulier a détruit beaucoup de vestiges de l'époque du prophète, précisément pour qu'on n'en fasse pas un lieu d'idolâtrie, pour qu'il n'y ait pas un culte à Mohammed. Donc le wahhabisme a encore surévalué cet interdit. Alors quand on fait un film, par exemple, sur Mohammed, on ne le montre jamais. Et quand il y a des miniatures, alors ça c'est un peu limite par rapport à l'interdit religieux, mais les miniatures persanes en particulier, on représente la personne du prophète, mais jamais son visage.
Donc on comprend hein, l'émoi.
Donc c'est très profond, si vous voulez, c'est culturel, c'est viscéral, c'est fondamental.
On comprend donc l'émoi à propos des voilà. Des caricatures. Hein. Et alors, à propos du meurtre de Samuel Paty, justement, hein, le grand imam égyptien d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayeb, celui-là même qui a inspiré le pape, on en a parlé la semaine dernière pour son encyclique Fratelli Tutti, et qu'on ne peut donc pas suspecter de fanatisme, hein. Il a donc condamné l'acte criminel odieux, donc il a condamné l'acte comme vos amis musulmans, tout en soutenant cependant qu'insulter des religions et attaquer leurs symboles sacrés au nom de la liberté d'expression est un double standard intellectuel et un appel à la haine. Père Rouchi, c'est là qu'on a un problème tout de même, car que nous avons manifestement des logiciels de pensée très différents. Notre République, la République, est très attachée à la liberté d'expression, à son corollaire, la laïcité. Est-ce qu'il faudrait y renoncer pour ne pas mettre d'huile sur le feu, pour reprendre l'expression là de Mgr Le Gall ?
Il ne faut pas personne ne doit renoncer à ses valeurs.
Et à la liberté d'expression
non
plus ?
Tout le monde a le droit d'avoir ses valeurs. Nous avons le droit de considérer même que ces valeurs sont exemplaires et que nous souhaitons les faire partager aux autres. Donc nous avons une longue histoire au terme de laquelle nous pouvons saisir la réalité de deux manières. Une manière effectivement que l'on pourrait appeler de façon un peu anachronique laïque. Dès les origines du judaïsme, le soleil et la lune ne sont pas des dieux. Ils sont là pour faire le calendrier, ce qui est horrible pour tout païen. Donc déjà, dans le judaïsme, nous avons cette distanciation entre, si vous voulez, une pensée rationnelle, pour parler en termes modernes, et une pensée religieuse. Et d'ailleurs, les deux se fécondent réciproquement.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le problème, ce n'est pas la liberté d'expression ?
Alors, la liberté d'expression, si vous voulez, ça c'est dans notre système laïque, la démocratie suppose l'expression libre de toutes les opinions. Mmh. Et donc, dans notre Occident, enfin dans notre France, qui a été chrétienne, nous avons fini au bout d'un siècle, nous, l'Église catholique, par adhérer à cette vision laïque, dans la mesure où elle n'est pas opposée à la religion. Mais c'est un petit peu dans nos gènes culturels et même dans nos gènes évangéliques. Lorsque un homme arrive devant Jésus pour lui demander d'intervenir dans le partage successoral avec son frère, Jésus lui dit « Mais qui m'a instauré pour réaliser vos partages ?» Mm-hmm. C'est-à-dire Moïse Jésus refuse même d'être un nouveau Moïse qui donnerait une loi. Et le livre de la Sagesse dit que Dieu a laissé l'homme à son conseil. Donc la religion a sa place dans la structuration de la vie, mais elle ne doit pas être le fondement de la structuration de la vie. Évidemment, elle porte des valeurs, elle propose des valeurs, et malheureusement... Enfin,
mais sur le logiciel différent dont je vous parle...
Les musulmans ont un système différent. Il n'y a pas ce référent autre que religieux pour fonder le lien social. Alors même si quelques élites occidentalisées le pensent, même si les formes extérieures des États ont aussi des républiques, des démocraties avec beaucoup de guillemets. Il y a des démocrates sincères chez les musulmans, évidemment, mais le fondement du lien social ancré dans la conscience du peuple en particulier, c'est justement que la religion fonde le lien social.
Ça veut dire qu'il ne faut pas projeter sur eux notre façon à nous de penser.
Nous devons tenir compte de cette différence culturelle. Et c'est un peu le drame, si vous voulez, des caricatures. Il y a un malentendu fondamental. Les auteurs des caricatures ont une bonne intention. Ils veulent faire rire pour faire réfléchir et dénoncer l'outrance des religions. Ça, c'est ce que nous sécrétons, si vous voulez, comme logiciel. Mmh. Et donc, leur intention est bonne, et elle n'est pas directement contre la religion. Mais elle n'est pas du tout reçue comme ça.
Ça veut dire quoi, père? Ça veut dire qu'il faut faire attention, l'usage de notre liberté d'expression doit être à l'aune du public que l'on a face à soi, c'est ça?
La liberté d'expression n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est nous souhaitons faire adhérer les autres à nos valeurs, parce que nous pensons qu'elles sont positives. Pour apprendre l'anglais à John, il faut connaître l'anglais, mais il faut connaître John. Si vous faites d'abord détester l'anglais à John, vous ne lui apprendrez jamais l'anglais. Mmh. Donc, si vous prenez un rebrousse-poil, justement pour illustrer cette valeur qui est pour nous positive, d'une façon simplement pédagogique, il ne faut pas heurter d'abord la sensibilité de l'autre, sinon il ne partagera jamais nos valeurs. Bon, et il y a une autre dimension alors qui est, du respect. Alors, l'intention des caricaturistes était bonne, mais le résultat obtenu, ça a été des meurtres. Ce n'est pas du tout ce qu'ils voulaient.
Non.
Donc, pourquoi ça s'est produit? Précisément parce qu'ils ne connaissent pas, et donc c'est une forme, excusez-moi, paix à leur mémoire, mais d'inculture. Ils ne tiennent pas compte du destinataire à qui ils vont s'adresser. Même si leur premier destinataire, c'est la société française, lorsque Samuel Paty a voulu présenter les caricatures à ses élèves, bon, il a bien senti qu'il y avait quelque chose qui coinçait, puisqu'il aurait averti les musulmans de détourner le regard ou autre. Mais si vous voulez, c'est méconnaître le côté que j'appelle viscéral, spontané, du respect qui est dû à certaines choses. Et donc, avant d'expliquer, de décoder le message de la caricature, il aurait fallu commencer, par exemple, par des pamphlets. Dans la culture arabo-islamique, il y a des poètes qui se sont moqués du prophète. Il y a des pamphlets de Voltaire. Il y a les dessins de Plantu ou de Na qui promeuvent aussi la liberté d'expression, mais si vous voulez, dans un premier temps, d'une façon plus douce.
On renonce pas à notre liberté d'expression, mais si je résume, on fait appel à notre intelligence et on sort de ce que vous avez appelé notre suffisance culturelle, qui nous fait croire que tout le monde pense comme nous, c'est ça?
Exactement.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'autocensure?
Si nous voulons que les autres adhèrent à notre système, il faut le leur présenter sous le meilleur jour. Donc, si vous voulez, pour promouvoir la liberté d'expression, par rapport à la sensibilité musulmane, les caricaturistes ont pris le plus mauvais chemin possible. Voyez.
Un grand merci, père. Malheureusement, il y aurait beaucoup pas dire. Là. On a amorcé ce matin ensemble une réflexion. Et comment ne pas penser d'ailleurs aujourd'hui aux 130 victimes du Bataclan mortes il y a tout juste 5 ans. C'était le 13 novembre 2015, sous les balles des terroristes islamistes. Un grand merci, père Jean-Jacques Rouchy. Je rappelle que vous êtes chargé des relations avec l'islam et des relations interreligieuses pour le diocèse de Toulouse. Merci.